On va commencer. On est quelques minutes en retard ce matin, mais c'est correct comme ça. Il est arrivé quelques affaires. La dame qui était là, dans le fond, elle cherchait le cours à M. Châté, je ne sais pas, je n'étais pas conscient. Il enseignait ce matin sur l'Évangile de Marc. Bon. Ça vaut la peine de commencer en retard pour diriger à la bonne place. Donc, ce matin, c'est ça, j'ai juste trouvé ça comme carte du monde. J'avais pas rien chez nous, là, mais bon, je vais en acheter une plus grosse, je trouve ça un peu trop petit quand même. Parce que je suis pas sûr que tout le monde avait une carte du monde dans sa tête. Est-ce que quand vous pensez à la planète, c'est tout clair dans votre tête, là, ils sont où les continents puis tout ça? Là, où, et en tout cas, ça va aider au moins. Surtout bien, qu'on arrive au chapitre 10, si vous n'avez pas de carte au chapitre 10, c'est beaucoup moins intéressant. La semaine dernière, je suis conscient aussi qu'on a commencé un sujet comme à la dernière minute, j'aurais même pas dû. C'est que ce matin, on va recommencer. Là. Moi-même, je me suis posé beaucoup de questions cette semaine pour mieux comprendre. C'est qu'on va regarder ça ensemble ce matin. Oh. Salut Paul. Ouais, pas de problème. C'est qu'on va juste prendre le temps de prier avant de commencer. Est-ce que vous permettez les godins que je prie pour vous là, avec ce que j'ai su tantôt, c'est correct? OK. Mais oui, je n'étais même pas au courant. Là, c'est que je vais prendre le temps de prier pour vous, mais en même temps, là, je le mentionne. C'est juste que vous avez été malade cette semaine. Madeleine a été beaucoup malade, mais je ne savais pas, Paul, que tu avais perdu ton emploi récemment. Parce que ça a donné que j'ai posé la question dans un autre sens, là, parce que tu aides beaucoup. Là, c'est juste dire, ah ouais, comment tu trouves le temps pour aider et travailler? Mais là, j'ai appris que tu n'as pas perdu ton emploi. Il y a eu des congédiements au Cercle du Soleil. C'est avec Paul a été de ceux aussi qui étaient congédiés. C'est que c'est une épreuve. Priez pour eux en même temps. Là, Madeleine aussi a cessé son emploi là, dans le temps des fêtes. Seigneur, on veut te remercier pour qui tu es. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es notre Père céleste et on a la grâce de tes enfants d'adoption, Seigneur. Par ta pure grâce, et on veut se lever chaque matin et se rappeler la bénédiction qu'on a d'être participant à ta gloire, d'avoir l'espérance de la vie éternelle, d'être réconcilié avec toi, puis se savoir être aimé de toi, Seigneur, et étudiant ta parole, que rien qui peut nous séparer de ton amour. Et c'est une vraie source de paix qu'on peut trouver dans ton évangile, dans cette vérité. Et Seigneur, on veut te remercier parce qu'on a ta parole, on a ta volonté. Ce matin, on prend le temps d'étudier ta parole ensemble. Il y a des textes, des fois, dans les Écritures qu'on comprend pas nécessairement pourquoi ils sont là, mais Seigneur, tu l'as permis, puis on veut apprendre à mieux connaître ta personne, ton plan, en étudiant tous les textes de ta parole. Et on veut te remettre ce matin, en même temps, en passant, Seigneur, à la famille Godin, Paul et Madeleine, qui passent par un temps d'épreuve. Seigneur, tu nous as dit que tu nous épargnerais pas les épreuves et on en a tous. Mais une chose que tu nous as promis, Seigneur, c'est que dans ces temps-là, tu veilles sur nous et ton plan de nous faire grandir à l'image de ton Fils, tu n'y renonces jamais, Seigneur, et tu es toujours en train de nous de faire grandir Christ en nous. Et je te prie que ce soit une occasion pour eux aussi de goûter davantage à ton amour, de voir comment ton esprit agit dans leur vie, Seigneur, et que tu puisses les surtout vers grandir leur foi dans ce temps. Et en même temps, ma prière, c'est que tu puisses permettre qu'ils retrouvent un emploi. Tu puisses mettre ta main directrice là-dessus. Je sais que c'est ta volonté qu'on travaille, Seigneur, pour subvenir à nos besoins. Je te prie que tu puisses mettre ta main, qu'ils puissent avoir une direction claire et qu'ils puissent trouver un emploi qui est adapté pour eux. Merci, Seigneur, parce qu'on sait que tu nous aimes et tu nous accompagnes. Au nom de Jésus, amen. Bonjour, bonjour. Bonjour les ou la nouvelle mariée. Elle était toute seule. Elle commence mal, toute seule le matin. On a passé 2 semaines en voyage de noces avec, c'était assez le matin. Donc, ceux qui veulent tourner, veulent voir le texte ensemble, on va regarder la fin du chapitre 9 de la Genèse. Alors, vous pouvez tourner dans la Genèse, chapitre 9. C'est un texte difficile qu'on va prendre le temps de regarder ce matin. Puis j'ai encore beaucoup réfléchi cette semaine. J'ai lu là-dessus. J'ai lu d'autres commentaires. C'est que je vais vous présenter ce que je pense être la bonne interprétation de ce texte-là. Puis On va regarder ça ce matin, versets 25 à 27. Bon, 25 à 27 du chapitre 9, jusqu'à 28 en fait. Là, on se rappelle le contexte, là, on vient tout juste d'avoir l'histoire avec Cham et son père. Comment est-ce qu'il a découvert son père dans sa nudité après que lui se soit enivré de vin. Puis on a vu comment est-ce que ça l'a révélé le cœur de Cham. On a vu dans l'histoire clairement là, Cham qui était rendu à un certain âge, il avait certainement une attitude de rébellion dans son cœur. Il avait une attitude hautaine par rapport à son père. Il a été fier de découvrir son père dans une situation de péché. Il s'en est moqué d'aller voir ses frères. Pas de problème. Ses frères ont bien réagi. Ses frères, au lieu de se moquer de leur père, ils ont préservé son honneur. Ils ont été couvrir sa nudité. On sort de cette histoire-là, mais qui nous révèle un peu. C'est comme si on a un parallèle à ce point-ci avec l'histoire des enfants d'Adam et Ève. Adam et Ève qui ont eu quelques enfants, puis on voit avec la première histoire avec Abel et Caïn. Où est-ce qu'on voit comment dans le cœur de Caïn, Caïn est un exemple de l'homme qui se rebelle contre Dieu, puis on voit dans son histoire avec son frère Abel comment ça s'est manifesté. Puis on voit après comment sa descendance à Caïn a été marquée par son influence, a été marquée par une même façon de penser puis une même façon de vivre. C'est un peu ça ici qui est en train de se passer. C'est comme si on recommence à zéro. On repart avec Noé, avec sa femme, et ses trois fils et leur femme. On repart, c'est les seuls qui étaient là après le déluge. Puis on est aujourd'hui, on est tous descendants d'eux autres, puis on voit comment que le péché a repris la place partout sur la planète. Et on a vu que le déluge n'a pas nettoyé la nature pécheresse des 8 personnes qui étaient là. Puis je pense que à ce point-ci, l'auteur prend soin de m'en mentionner, dans le fond, quel fils devient un petit peu l'exemple de d'une descendance qui ne va pas particulièrement invoquer le nom de l'Éternel, puis c'est Cham qui devient cet exemple-là. Puis je pense que l'histoire, elle est mise là aussi pour nous montrer comment est-ce que le péché était déjà en train de recommencer à prendre le dessus, puis particulièrement dans la vie de Cham, dans la personne de Cham. Et je pense qu'il faut garder ça en tête ce matin. Dans le fond, je pensais à ça cette semaine. Comme on dit souvent, pour bien comprendre les textes, il faut se rappeler c'est quoi l'intention de l'auteur. L'intention de Dieu lorsqu'il nous a donné un livre dans les Écritures. Il faut se rappeler de ça, il faut penser au contexte. Puis je vous rappelle ça avec la Genèse. On a parlé au début dans les premiers cours, c'est quoi le but pour nous d'avoir reçu ce livre-là? Pourquoi Dieu a permis qu'on trouve la Genèse, qu'on se retrouve avec cette révélation-là aujourd'hui? Mais certainement que le but premier de la Genèse, c'est de nous révéler les origines, oui, mais nous révéler les origines du peuple choisi de Dieu. Parce qu'à quelque part, là, toute l'histoire des Écritures nous mène à Christ. Toute l'histoire des Écritures nous mène à l'Évangile de Dieu en Christ. Et c'est ça la ligne directrice. Et dès le début de la Genèse, on va voir que l'auteur, inspiré par l'Esprit de Dieu, on l'a vu, est intéressé à nous dire comment est-ce qu'à partir du premier péché, à partir du péché d'Adam et Ève, comment est-ce que Dieu a prévu la rédemption, comment Dieu a prévu régler le problème. Et on se rappelle du verset probablement qui est le verset clé de la Genèse, j'oserais dire, Genèse 3, 15, tout de suite après le premier péché, tout de suite après la situation de péché d'Adam et Ève, on a Dieu qui commence à discourir avec eux, à leur parler, puis alors qu'il dit des conséquences de leur péché, la chose qui saute aux yeux, c'est que Dieu va tout de suite donner un élément d'espoir, puis un élément de grâce, parce que Dieu va tout de suite révéler qu'il y a un plan. Pour cette mauvaise situation maintenant, pour ce péché-là, Dieu a un plan, il y a un plan rédempteur. Puis on retourne à Genèse 3, 15, puis on se rappelle que Dieu fait la promesse que de la postérité de la femme, que de Ève, il va naître quelqu'un qui va écraser la tête du serpent, qui va écraser la tête de la postérité du serpent. Excusez-moi, écraser la tête du serpent plutôt. C'est que là, juste lit comme ça, ça a l'air un peu bizarre, mais on a vraiment ici une prophétie qui dit que à partir de maintenant, maintenant que le péché est entré dans le monde, le péché va affecter tous, mais il y en a qui vont vivre, qui vont invoquer le nom de l'Éternel, il y en a qui vont vivre par la foi, puis la justice va leur être imputée, justice va leur être donnée, parce qu'ils vont vivre par la foi, vont faire confiance à Dieu, puis il y en a d'autres qui vont vivre dans la rébellion à Dieu, dans l'humanité, puis il y a vraiment deux descendances qui vont s'opposer, là. Tu sais, la descendance qui va marcher à la manière d'Ève, parce qu'Ève, ça a été une femme de foi, même si on pense souvent à Ève parce qu'elle a péché, mais on oublie qu'Adam et Ève ont vécu une vie de foi en l'Éternel. Après leur péché, ils se sont repentis puis ont vécu une vie de foi.
Et on a cette descendance-là d'Ève qui est et cette descendance-là, c'est quoi le premier exemple qu'on a de sa descendance qui reflète l'attitude d'Ève? Lequel de ses fils qui est ciblé dans le récit de Genèse? Seth. C'est vraiment dans la personne de Seth, dans la descendance de Seth, qu'on va voir cet exemple-là d'une génération qui invoque le nom de Dieu, qui marche par la foi. Et la descendance du serpent, c'est vraiment l'idée du serpent ancien. Satan a possédé le serpent à ce moment-là. C'est ceux qui, à la manière de Satan, marchent dans ses voies. Puis on retrouve dans le Nouveau Testament cette idée-là. On est tous des enfants du diable. À la manière du diable, on est tous rebelles contre Dieu. Si ce n'est qu'on est, un jour, par la grâce de Dieu, on est adopté comme enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Autrement, si on n'est pas enfant de Dieu, on est naturellement enfant du diable. C'est un texte qui, c'est un thème qui revient dans 1 Jean, entre autres, dans le Nouveau Testament. Quel fils de Noah, d'Adam reflète cette attitude-là, là, de la descendance du serpent? Caïn, vous vous rappelez de Caïn, puis là, toute l'histoire de Caïn. Puis on a vu dans le chapitre 4 comment c'est pas juste l'histoire de Caïn, mais comment on voit l'histoire de ses descendants aussi. Puis d'ailleurs, Caïn, même après que Dieu a maudit Caïn, ben pas maudit, il a déposé il y a eu une malédiction sur Caïn, où ce qu'il va errer ça et là sur la terre, il sera pas capable de mettre son pied quelque part pour s'établir. Caïn, sa première réaction, ça a été de se plaindre, parce qu'il avait peur de se faire tuer. Mais une de ses deuxièmes réactions qu'on a vues, c'est qu'il est parti et allait se bâtir une ville de suite. Okay? Son cœur n'était pas plus attendri. D'une façon rebelle, il a essayé de contrer la malédiction que Dieu venait déposer sur lui. Puis la malédiction, c'est qu'il allait errer, il allait être comme un nomade. Il est allé se construire une ville de suite. Et on va voir le même style d'histoire qui se répète avec Cham et sa descendance. On va le voir dans les prochains chapitres. Et il faut garder ça en tête. Lorsque l'humanité repart à partir de Noé, on a un peu la même situation qui se passe. Puis là, on arrive avec cette histoire-là qui nous arrive de nulle part. Là, on finit l'alliance. Dieu fait une alliance avec l'humanité comme quoi qu'il n'enverra plus le déluge. Puis là, il dépose l'arc-en-ciel dans l'atmosphère comme signe de son alliance. Puis là, du coup, on a cette histoire-là. Là. Puis cette histoire-là, comme je l'ai mentionné, est arrivée tard après le déluge. Elle n'est pas arrivée tout de suite après. Et une des raisons, c'est qu'il y a déjà... Cham a déjà eu son quatrième fils, tout du moins. En tout cas, dans la liste de Genèse 10, on va voir qu'il y a 4 fils qui sont mentionnés de Cham, dont Canaan, qui est le plus jeune. Là, je vais revenir à ça. Là, c'est le quatrième listé. Puis oui, traditionnellement, quand les Juifs listent des généalogies, puis ils ont l'expression « j'engendre un fils », mais c'est une lignée de fils, normalement, c'est en ordre chronologique. Puis là, je vais y revenir par rapport à Sem, Cham et Japheth. Ça veut dire que Canaan, on va voir dans le texte, Canaan, il est déjà né. Il existe déjà parce que Noé va parler de Canaan dans sa prophétie. Puis non seulement qu'il parle de Canaan, mais on va le voir ensemble, c'est assez clair que Canaan, il n'y a pas juste un an non plus, il est assez vieux pour déjà avoir une attitude qui ressemble à celle de son père, Cham. Et c'est probablement pour ça que Canaan est ciblé ici dans la prophétie, parce que Canaan est comme l'exemple du cœur rebelle de son père. D'entre les 4 fils de Cham, c'est probablement Canaan qui, de toute évidence, est celui qui est l'exemple de la descendance qui ne suit pas l'Éternel. Okay? Un peu de la même manière que Caïn. Puis, faut pas oublier, c'est le même auteur, compilateur, éditeur ici là, qui écrit la Genèse. Puis, c'est la même. On veut suivre c'est quoi qui se passe avec la prophétie de Genèse 3:15. Après le déluge, qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce qui se passe avec les deux descendances? Là, on a déjà une idée. On a déjà une idée qu'on voit déjà le cœur de l'homme qui s'éloigne de l'Éternel, Cham, Canaan. Puis on va voir que Sem, c'est le contraire. Dans la famille de Sem, ça nous dit dans le texte qu'on va lire, « Béni soit le Dieu de Sem ». On voit que Sem, il a une relation particulière avec Dieu. Puis on voit que Japheth a une relation particulière avec Sem, donc il a une relation particulière avec Dieu aussi. Puis ces deux frères-là, non seulement dans leur descendance, ils vont avoir une bénédiction par rapport à leur proximité avec l'Éternel, mais on la voit dans l'histoire aussi. L'histoire qu'on vient juste de lire, on voit que c'est ces deux frères-là qui ont bien agi en opposition avec Cham. Puis on voit même pas dans l'histoire qu'ils ont été voir Cham, puis ils l'ont repris verbalement, t'aurais pas dû faire ça. Ils l'ont repris la plus belle façon, ils l'ont repris en agissant correctement. Ils se sont virés de bord, puis ils ont réglé le problème. Au lieu d'embarquer dans la moquerie de leur frère, ils sont partis, puis ils ont agi d'une façon... honorante pour leur père, sans chercher à l'accuser ou dire que tu t'es enivré, parce qu'il s'est enivré. Là, Noé a quand même péché dans cette situation-là. C'est qu'on a déjà ici un exemple de ce que ça va ressembler leur descendance à travers cette histoire-là. Un petit peu de la même raison pourquoi qu'on a eu l'histoire de Caïn et Abel. C'est un peu la même raison pourquoi qu'on a l'histoire ici de Cham, Sem et Japheth avec Noé. Je reviens avec l'idée, parce qu'on a parlé la semaine passée, puis ça m'a je m'étais jamais posé la question, c'est que je m'en suis posé cette semaine. Parce que souvent traditionnellement, on dit que Japheth, c'est le plus vieux, puis Cham, c'est le plus jeune, okay, dans les fils de Noé. Pourtant, les premières mentions et toutes les mentions des fils de Noé, quand ça dit que Noé a engendré ses fils, sont tout le temps mentionnés Sem, Cham et Japheth. C'est l'ordre dans lequel ils sont mentionnés. Puis lorsqu'on va lire, admettons, Genèse 10 ou d'autres textes, il semble assez clair traditionnellement que lorsqu'on nous liste une série de fils, bien, ils sont en ordre chronologique. Ça ne veut pas dire que c'est exhaustif, ça ne veut pas dire que tous les fils sont nécessairement mentionnés, mais ceux qui sont mentionnés sont tout du moins en ordre chronologique. Puis c'est clair que ça ne veut pas dire qu'ils ont juste eu des fils, ils n'ont pas eu de filles. Là. Okay? C'est que les filles ne sont pas mentionnées parce que les lignées sont mentionnées, les descendants sont mentionnés de père en fils. Mais il y a eu des filles qui leur sont nées aussi à ces parents-là, c'est juste pas mentionné dans le texte. Donc ici, moi, mon opinion, c'est que Sem, Cham et Japheth, c'est la même idée. Ça serait un peu contradictoire de dire que Sem, Cham et Japheth n'ont pas le même ordre que le reste des mentions généalogiques. C'est-à-dire que Sem probablement était le plus vieux, Cham le deuxième et Japheth le plus jeune dans les trois. Et une des raisons qu'il y en a qui disaient le contraire, c'est parce qu'il y a un verset qui dit quand Noé est revenu à ses sens après son ivresse, Il s'est fait raconter ce que son plus jeune avait fait. Puis même dans nos versions, des fois, c'est dit cadet pour Cham, comme s'il était le plus jeune des trois. Sauf que c'est clair dans l'hébreu que c'est pas nécessairement ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'un de ses plus jeunes, ça ne veut pas nécessairement dire le plus jeune. Il y a une grosse différence en anglais. Là, on dirait younger, ça peut être traduit younger ou youngest, mais il y a une grosse différence, parce qu'il y en a un, ça peut être juste l'idée que Cham n'est pas le plus vieux, et dans les plus jeunes, il n'est pas nécessairement le cadet. Puis ça, c'est assez clair dans l'hébreu, là, je l'ai encore vérifié cette semaine. Et parce que si on dit qu'il est le plus jeune, en plus, ça vient contredire la liste des trois, c'est-à-dire que c'est comme si Cham il est mentionné le milieu, et donc il devrait être mentionné en dernier dans la liste. Et c'est très traditionnellement, là, les Hébreux écrivent vraiment dans leur généalogie en ordre chronologique. Puis à chaque fois que Sem et Japheth sont mentionnés, c'est dans cet ordre-là. Ça serait étrange. Mais en même temps, c'est que moi, mon opinion, c'est que c'est vraiment que Cham est le deuxième. Sem le plus vieux, puis Japheth le plus jeune dans le... Puis on va voir aussi que quand on va arriver à la table des nations, c'est Genèse 10. Japheth serait le plus jeune. Plus jeune, allez-y, dites-moi. Où vous avez vu? OK, c'est bon. Il va falloir que j'aille regarder le verset aussi, puis je n'ai pas regardé celle-là.
La fête, c'est Bénin. C'est le cadet qui signe, c'est le
Seigneur de Dieu. Laisse-moi le salut. Dites-moi, c'est quel verset ça vous venez de lire?
10-25,
OK.
Excuse-moi,
10-21. Je vais le prendre en note, je vous en reviens avec ça, parce que je n'ai pas regardé... Mais c'est bon, je n'ai pas regardé chapitre 10 au complet, c'est que je ne suis même pas rendu à... Je n'étais pas rendu à ce verset-là, mais je vais vous en revenir avec ça la semaine dernière. La semaine prochaine, plutôt. Il n'a qu'eu aussi des fils à Sem, pardon.
Sem, c'est
l'aîné.
L'aîné, le frère aîné de
Japheth. Le frère aîné de
Japheth. Ça dépend des traductions, c'est ça.
Non.
Ah, vous voyez, c'est qu'il doit y avoir deux possibilités de traduction. Je vais y revenir, là. Ça, c'est... Le verset 21 du chapitre 10. Y a-t-il quelqu'un qui peut me lire sa version? Juste en levant la main, une version, puis on va comparer deux versions tout de suite pour le fun. Là, on est dans 10-21. Christine, peux-tu lire la version du sommaire? Vas-y. OK, donc selon ta version, ça serait Sem serait le frère aîné. C'est la version sommaire. Vous, c'est laquelle, vous? Louis II. Oui.
De tous les fils d'Hébert et frères de
l'aîné. C'est que moi, j'ai la même version que vous. C'est que selon notre version, ça dit le contraire de cette version-là. 9-18. Attendez un petit peu, le 9-18. Mais 9-18 fait juste donner l'ordre. Okay? Les fils de Noé qui sortaient de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ça ne mentionne pas plus que l'ordre des trois fils ici. On n'a pas le... Qu'est-ce que son cadet avait fait? C'est ça, mais c'est ça que je vous dis. Notre traduction va un petit peu loin en disant cadet, parce que lorsque vous sortez des traductions littérales, vous en avez plusieurs, vous irez voir dans les traductions littérales, ils se permettent pas, moi c'est ça, ils se permettent pas de dire cadet, ils se permettent de dire younger. Ça veut dire plus jeune. Parce que le mot qui est utilisé, il est traduit, on peut le traduire dans les deux sens, c'est qu'ils se permettent pas d'aller jusqu'à dire cadet, parce que souvent, les gens qui se permettent pas de dire ça, c'est quand ils regardent en plus, qu'ils voient que les deux sens sont possibles, ils regardent Sem, Cham, Japhet, l'ordre qui nous est donné, c'est qu'ils préfèrent traduire plus jeune, parce que Cham, il serait juste dans les plus jeunes, il serait pas le cadet. Puis là, ce qui est intéressant, parce que je ne suis pas rendu là dans mes notes, là, mais 10-21 ont juste le fait qu'il y a deux traductions qui disent carrément le contraire, probablement que dans l'original, c'est pas si clair que ça. Non, mais c'est ça, mais il y a vraiment deux... Moi, en lisant, j'ai vraiment réalisé qu'il y a deux positions là-dessus. Moi, mon opinion, c'est d'y aller vraiment dans l'ordre Sem, Cham, Japhet, dans l'ordre qui nous est mentionné. Puis après ça, j'interprète les textes qu'on vient de voir en me référant à cet ordre-là. Mais ces textes-là, c'est sûr qu'ils sont probablement gris, OK? Si vos traductions, ils ont deux visions différentes, c'est parce que le texte est gris. Probablement qu'il y a une virgule fait la différence souvent, OK? Tu rajoutes une virgule, tu n'en rajoutes pas, c'est que des fois, dépendamment. Faut pas oublier que de l'hébreu, c'est pas du français, OK? C'est que c'est pas écrit de la même façon, c'est pas la même ponctuation, c'est pas la même ordre non plus, nom, verbe, puis complément. Faut pas oublier ça. Mais c'est intéressant que vous souleviez ça. Je regarderai le verset 21, je suis rendu là, mais moi, comme je vous dis, à mon avis, Sem est plus vieux, puis Cham est dans le milieu, puis Japhet est le plus jeune. C'est mon avis basé sur la... Puis je vais vous donner un autre point aussi que je t'ai rendu à dire ça. C'est que la table des nations, chapitre 10, la personne qui nous donne cette information-là, la personne qui a écrit est probablement Sem, OK? Ça, c'est pas dit dans le texte, mais c'est probablement lui, puis je vous dis pourquoi, OK? Parce que le temps qu'il a vécu, il aurait vécu assez longtemps pour être témoin de tous les événements mentionnés dans le chapitre 10, Sem. Puis en plus, la façon que c'est listé, c'est que la personne qui écrit parle de Japhet en premier. On couvre les descendants de Japhet en premier. Après, on couvre ceux de Cham. On finit avec ceux de Sem. Et non seulement on finit avec ceux de Sem, mais il y a beaucoup plus de détails dans les descendants de Sem. On se rend 6 ou 7 générations dans les descendants de Sem, tandis qu'on se rend moins dans les descendants de Japhet, puis moins dans les descendants de Cham. C'est comme si Sem, à un moment donné, il aurait perdu de vue ses frères puis leurs descendants, parce qu'ils ne restaient pas tous dans le même terrain. Vous comprenez que ce sont, là, avec les années qui passent, ils se sont éloignés, puis il n'y avait pas l'Internet puis le téléphone pour prendre des nouvelles. Ah ouais, ton troisième fils, il a eu son quatrième petit-fils, puis je vais l'écrire dans ma liste. T'sais. Il n'allait pas nécessairement faire non plus 300 kilomètres pour savoir ce qui se passe. C'est qu'à un moment donné, c'est comme si on voit dans la table des nations que Sem a perdu le fil un petit peu de ce qui se passait chez ses frères, puis c'est pour ça que nous, on n'a pas autant d'informations que quand on parle de Sem. Quand que Sem parle de sa génération, dans le chapitre 10, vous allez voir qu'il se rend loin, il y a beaucoup plus de détails. C'est pour ça qu'on pense probablement que c'est Sem qui a compilé cette information-là. Et c'est de la part de l'aîné. Ça fait du sens aussi de commencer par le plus jeune. Là, c'est juste des pistes de réflexion. Par le plus jeune, après ça, suivant, puis il finit avec lui-même, au lieu de commencer avec lui-même. Tu sais. Ça va aussi dans le sens que c'est certainement quelque chose qui... Ça va dans le sens aussi que c'est assez normal de voir que l'aîné peut s'occuper de ça. Dans ce cas-ci, on pourrait dire simplement que l'aîné semblait être celui qui marchait le plus avec le Seigneur. C'est qu'à quelque part, il s'est donné la... Dieu a permis qu'il se soucie de nous donner la descendance aussi de Ève à travers ça, parce qu'on va voir que dans le texte de Genèse 10, on continue à suivre la descendance de la femme. Là. Donc, on a fait une parenthèse. Allez-y, M. Priou. Ouais, dans une histoire où ce que pour la alors, pas... Mais c'est pas Isaac, c'est pas Isaïe et Jacob ça. Ah ouais, OK. Puis on est
donc le deuxième est devenu le premier.
Ouais, je comprends. Sauf qu'ici je pense pas que c'était des triplés là, c'est que probablement ils n'ont pas eu le combat en sortant. C'est sûr qu'à 3 de même si on ça a dû faire mal à maman là, c'est là. Ah, 3 mains, cramoisi vert genre. Première main sortie. Oui, je comprends votre point. Mais bon, OK, c'est que là, je vous soumets ce que je crois qu'est-ce qu'il y en a ici. Je vais vous en revenir avec le verset 21. Mais une chose que je peux vous dire avec clarté, c'est que le mot cadet, c'est une traduction qui est permissive parce que c'est pas clair dans le texte. J'irais beaucoup plus dans le sens que Sem, Cham et Japheth sont dans l'ordre chronologique. Puis ça a été ça depuis le début aussi. Même, vous regarderez Adam et Ève dans la liste de leurs enfants, là, c'est vraiment ça. Commence avec les plus vieux et continue avec les plus jeunes. Donc, je mentionnais ça parce que dans le texte qu'on lit, je vais le lire, là, ça fait 10 fois que je dis dans le texte qu'on regarde, 25 à 28, Genèse 9, on a Noé qui, après s'être réveillé de son ivresse puis qui constate la situation, il se fait rapporter par Japheth puis par Sem ce que Cham a fait. Voici ce que Noé dit, puis c'est vraiment sous forme de prophétie. Noé n'est pas en train de déposer une malédiction, okay? Parce que le temps du verbe utilisé dans l'hébreu, c'est vraiment une constatation. Voici ce que vont être les choses. Noé n'est pas en train de dire « j'espère que Cham, parce qu'il m'a fait ça, que ça y va, ses enfants vont souffrir ». Il n'est vraiment pas en train de déposer une malédiction puis de maudire son petit-fils. Il est en train de prophétiser sur ce que vont être les choses. C'est clair dans l'original, ça. Il dit « maudit soit Canaan ». Même, tu vois, en français, on pourrait encore mieux traduire « maudit et Canaan ». Déjà, il y a une différence. Soit ça veut dire qu'il va devenir maudit pratiquement, tandis que là, il est maudit déjà. C'est comme si Noé est en train de dire qu'il est déjà maudit. Là. Je suis en train de juste affirmer quelque chose. T'sais. Il dit « maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères ». Donc, si vous ne savez pas c'est qui Canaan, là, vous tournez dans le chapitre suivant. Okay? On va dans Genèse 10, dans les premiers versets. Parce que là, c'est ça. C'est comme on est un petit peu devancé. Là, si on n'a pas lu le reste du texte, on se demande de qui parle. Puis vous allez voir au verset 6. Puis ça nous dit que les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. OK? On parle vraiment de ce Canaan-là. Qui est donc le quatrième fils, qui est le quatrième fils de Cham. Oui. Il mentionne déjà que Cham est le père de Canaan au verset. Quel verset encore? On l'avait? 18. Puis je l'avais mentionné que c'est déjà étrange qu'il nous le mentionne, ça. Il nous le mentionne parce que c'est important. C'est important dans l'histoire qui s'en vient, là. Puis c'est Canaan. Puis Canaan, en plus, était particulièrement connu des Israélites qui lisent ce texte-là, là. Quand c'était la première fois que les gens ont lu ce texte-là, c'était les Israélites. Puis je veux dire, les Cananéites, c'était une des tribus descendantes de Canaan. Bien, habitaient la terre promise. Puis ils sont arrivés là, puis se sont battus contre eux autres. Ça a été leurs ennemis, puis ils ont dominé, puis tout ça, là. Ils ont massacré, même vous pourrez dire, bon, c'est un autre sujet. OK, donc, maudit soit Canaan. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Et puis, on finit avec le verset 28, Noé vécut après le déluge 350 ans, tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Tu peux-tu me lire avec ta version sommaire Christine, juste le verset 25 à 27 aussi, juste pour avoir une autre version. Là.
Alors il s'écria, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. Puis il ajouta, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit asservi à Sem. Que Dieu étende le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit le esclave.
Merci. Donc, c'est un texte difficile à prime abord. Lorsqu'on le lit, c'est spécial. On se pose plein de questions. Premièrement, pourquoi Canaan, là, pourquoi le quatrième fils de Cham est maudit? Là, c'est quoi l'affaire? Mais ça semble injuste. C'est drôle que Noé parle de Canaan, mais ça, c'est pas Canaan qui vient de faire de quoi? C'est Cham qui vient de faire une mauvaise action. C'est quoi le rapport? T'sais? Première chose, après ça, tu lis qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. C'est quoi cette histoire-là? Ça veut dire quoi? T'sais? Là, tu dis, c'est-tu historiquement, Canaan a été lui-même, puis sa famille a été l'esclave des esclaves de ses frères? Quoi, ses frères avaient des esclaves, puis lui était leur esclave. Pauvre lui, il était vraiment mal pris. Là. C'est-tu vraiment ça qui s'est passé historiquement? On se pose des questions. Après ça, on continue à aller. Bon, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Je veux dire, l'Éternel est Dieu de tous, es-tu juste le Dieu de Sem? Pourquoi que c'est mentionné comme ça dans le texte? Pourquoi ça dit Dieu de Sem? Et que Canaan, encore là, soit leur esclave, qu'il soit l'esclave de Sem. C'est quoi l'idée? Puis après, on continue à aller. Que Dieu étende les possessions de Japheth. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, même il y a d'autres versions qui vont dire que Japheth soit élargi. Okay? Il y a l'idée qu'il soit élargi. Es-tu en train de dire que Japheth, la gang à Japheth va couvrir plus de terrain sa planète? Es-tu en train de dire que Japheth... Japheth, ça va être quelqu'un qui va être ouvert d'esprit, parce que c'est une autre possibilité de comprendre le texte. C'est quoi que tu es en train de dire? Après ça, on a qu'il habite dans les tentes de Sem. Quoi, Japheth, ils ont vécu ensemble, ils faisaient de la cohabitation, là, les deux descendants, ils vivaient dans les mêmes tentes. C'est-tu vraiment ça qui s'est passé? Parce qu'on tourne au chapitre 10, puis on voit où est-ce que chaque fils s'est établi, puis où est-ce que leurs descendants sont établis. T'sais. C'est que là, toutes ces questions-là qu'on se pose, c'est que je pense que ce qui est difficile dans le texte, c'est de comprendre pourquoi qu'on parle de Canaan, puis c'est de comprendre ça veut dire quoi être esclave des esclaves. Puis à quelque part ici, on a Noé qui fait une prophétie. Puis Noé, il fait vraiment une prophétie, puis c'est... Puis, à quelque part, le texte ne nous a pas juste été donné pour qu'on sache pas de quoi ça, qu'on sache pas de quoi ça parle. Là. Je veux dire, il fait une prophétie qui est au début de tout. Là. Il est encore dans les débuts. C'est que ça semble concerner tous ses fils. Puis, ça semble pas concerner juste ses fils. C'est plus que ça. Ça semble concerner les descendants de chacun de ses fils. Entre autres, l'indice qu'on a, c'est qu'il parle pas de Cham, il parle de Canaan, qui est un de ses descendants déjà. Puis là, il parle qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Ça semble être quelque chose qui concerne les descendances, pas juste les trois personnes. Parce que, historiquement, on n'a pas d'indice que ces trois personnes-là ont vécu ça. Là, t'sais. Quand ils disent qu'ils habitent dans les tentes de Sem, il y a vraiment l'idée là, que dans les descendances, ils vont vivre des relations particulières entre eux autres. Et c'est assez clair, surtout quand on parle de Canaan, qu'ici, la prophétie fait référence vraiment aux trois descendances. On s'entend, là, on est après le déluge. Les trois descendances couvrent toute la planète. Okay? Il n'y a pas d'autres mondes qui ont été issus à part de Sem, Cham et Japheth. De ces trois-là, on descend toutes. Okay? Fait que de la même façon, quand on a Genèse 4, où est-ce qu'on en parle de la descendance de Seth et de la descendance de Caïn, bien, de la même façon, ici, on parle de la descendance des trois fils de Noé. Fait que là, je vous propose, moi, ce que je pense qui est l'interprétation la plus sensée du texte. Et il faut garder en tête que je pense qu'elle est la plus sensée parce qu'elle va dans le sens du contexte de Genèse au complet. L'auteur ici veut qu'on se rappelle qu'est-ce que ça fait quand tu suis Dieu, en tant que descendance, en tant que peuple, qu'est-ce que ça fait quand tu suis Dieu, puis qu'est-ce que ça fait quand tu ne suis pas Dieu dans ta vie tous les jours. Puis depuis le début, on suit des descendants. Il y en a une qui suit Dieu, il y en a une qui ne suit pas Dieu. Les descendants de Caïn, les descendants d'Abel, les descendants de Seth. Puis éventuellement, on arrive au chapitre 6. C'est quoi le summum du péché là, avant le déluge? Là? C'est quoi la goutte qui a fait déborder le vase avant le déluge? Le mélange, c'est le fait que tout d'un coup, il n'y en a plus de descendance qui suit Dieu, puisqu'il y en a une qui, par alliance à travers le mariage, est intéressée aux filles de l'autre sur des bases très légères comme critères. Puis ils se sont mélangés, puis tout d'un coup, quelques années plus tard, là, il n'y en a plus, quelques générations plus tard, il n'y en a plus de descendance qui suit Dieu. Il reste un juste sur la terre, il y a juste Noé qui trouve grâce aux yeux de Dieu, il y en a... C'est tout, là. C'est que là, où est-ce qu'elle est, cette descendance-là de Seth qui invoquait l'Éternel, mais elle a disparu au début du chapitre 6. Mais l'auteur n'arrête pas de nous faire suivre. Puis pourquoi il nous fait suivre ces descendances-là? C'est parce qu'il y a une prophétie au verset 15 du chapitre 3. C'est celle-là là, qui est clé dans Genèse. On n'arrête pas de suivre. Je me mets à la place du lecteur là, qui lit la Genèse, nous autres, admettons, là, puis vous avez lu Genèse 3:15, puis là, vous êtes curieux de savoir il le sauveur qui va descendre, qui s'en vient de la descendance de Ève. Là, on veut savoir... Quand est-ce qu'il va arriver, puis de où, c'est quoi sa descendance à lui. Puis c'est ça, là, tout le livre de Genèse, c'est qu'on suit la descendance du Messie. Là, dans le fond, ça a passé par Seth. Seth, ça a été le fils qui a remplacé Abel après que Caïn l'a tué. C'est que là, on voit Seth qui invoquait le nom de l'Éternel. Ou à un moment donné, grand désarroi à mélanger des deux descendances. Ouf, qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, on va-tu avoir l'accomplissement de la promesse du verset 15 du chapitre 3? Dieu s'apprête à détruire tout. Non, Dieu, dans sa grâce, en sauve un seul juste. Lui-même, il y a trois fils dans les 100 ans qui construit l'arche. Il y a trois fils qui lui naissent. Il marche avec lui, il marche avec Noé. Il embarque dans la construction de l'arche. Il embarque dans la foi de leur père. Il croit dans ce que Dieu a dit. Mais après le déluge, on a quelques décennies qui passent après le déluge. On a le temps que ces fils-là aient des fils, dont Canaan qui est rendu à un certain âge. Puis bang, on a encore la manifestation de Cham dans son cœur. On voit qu'il y avait déjà de quoi qui se nourrissait de la rébellion. On le voit dans le texte ici. Là. Tu sais, le gars, il a plus 30 ans. Là. Il s'en est passé du temps. Là. C'est que pour qu'après 20, 30, 40 ans, il ait cette attitude-là quand il a pogné son père sur le fait. On voit que c'est les enfants qui ont été éduqués par ce père-là, pouvez-vous vous imaginer un petit peu le genre d'influence qu'ils ont subi? Parce que Cham, il n'a pas gardé ça en dedans là, tout ce temps-là. Là. Il n'a pas vécu en espérant un jour pogner son père sur le fait. Là. Ça a été juste une manifestation de ce qui se passait dans son cœur. Puis certainement que ses enfants en ont eu l'influence ici. Puis c'est pour ça que Canaan est ciblé, à mon avis. C'est pour ça que je donne l'interprétation ici. C'est que Canaan est ciblé dans la prophétie parce que Canaan était probablement celui de ses fils qui ressemblait plus à Cham. C'était probablement celui de ses fils qui exemplifiait c'était quoi d'être rebelle à Dieu puis de ne pas marcher avec Dieu. Puis à quelque part, c'est pas anormal, on le sait. Hein, c'est une bonne façon d'avoir des enfants qui ne marchent pas avec le Seigneur plus tard, c'est de nous-mêmes pas marcher avec le Seigneur. C'est vraiment la meilleure technique. Si vous voulez que vos enfants ne marchent pas avec le Seigneur, faites ça. Non, si vous voulez que mes enfants marchent avec le Seigneur, c'est pas en leur disant autant qu'en faisant vous-même, autant qu'en vivant vous-même un vrai évangile. Ça ne veut pas dire qu'ils vont venir au Seigneur, mais il y a pas mal plus de chances qu'ils viennent parce qu'ils vont voir la manifestation de Christ dans vos cœurs, dans le mien. Puis c'est ça qui appelle à l'âme d'un incroyant, c'est de voir Jésus qui vit dans la personne en avant de lui, de voir le Saint-Esprit qui agit. Tu sais. Puis on pourrait aller chercher dans les Proverbes, tu sais, que si tu vis ça, tu risques d'avoir des résultats de ça. Mais bon, là, on a Canaan qui, lui, a vu son père. Puis voilà. Puis moi, je crois ici que Canaan est ciblé parce que c'est l'exemple de la descendance du serpent. Canaan est cet exemple-là. Et on arrive, puis Noé va faire une prophétie. Il va dire, maudit soit Canaan, maudit soit sa descendance. Maudit est sa descendance. C'est déjà une malédiction que de ne pas marcher avec l'Éternel. C'est déjà une malédiction. Regardez la descendance de Caïn. Ils ont inventé la musique, ils ont inventé la métallurgie, ils ont inventé 56 000 affaires. Okay? Dans Genèse 4, on les voit toutes. Tu regardes, c'est quoi qui ressort de ces générations-là? C'est une malédiction. Tu vois, on arrive à Lémèque, quand on lit Genèse 4, puis cet homme-là, là, sa seule gloire, sa gloire, là, c'est une gloire arrogante où est-ce qu'il se vante de pouvoir faire le mal qu'il veut, puis il n'y a pas personne qui va pouvoir y toucher. Il dit, gars, moi, je pourrais faire mal à un enfant, puis il n'y a pas personne qui va me toucher parce que mes fils vont me protéger. Mes fils, c'est des vrais. T'sais. Il se glorifie d'une arrogance humaine. C'est un humaniste, les mecs, lorsqu'on lit Genèse 4. Et c'est une malédiction de ne pas être près de l'Éternel. C'est une malédiction qu'en tant que peuple, de ne pas avoir la connaissance de l'Éternel dans notre peuple, parce que c'est quoi? On est laissé à notre propre péché. Ça me fait penser à Romains 1. Romains 1, c'est quoi la malédiction pour ceux qui pratiquent toutes sortes d'impuretés dans Romains 1, quand Paul commence son argument? Dieu dit, il les a laissés à eux-mêmes, ils les a laissés à leur propre péché. C'est une malédiction, là. Dieu qui retire son esprit puis qui te laisse à ton propre péché, tu es maudit, là, parce que tu es esclave de ton propre péché, il n'y a plus d'espoir. Si ce n'est de Dieu qui intervient et qui relève le voile, tu es maudit. Pensez à Pharaon, là, je ne pourrais pas commencer à faire un exégèse de Romains, mais moi, dans Romains, Dieu parle de comment est-ce qu'il a endurci le cœur de Pharaon. Là. C'est Pharaon, oui, c'est un homme qui ne marchait pas avec Dieu, qui rejetait l'Éternel. C'est un homme qui prenait Dieu pour Dieu lui-même. Tu sais, les pharaons, c'est des dieux hommes. Et Dieu dit qu'il l'a laissé à son propre péché, à endurcir son cœur. C'est une malédiction, là, tu sais, de ne plus avoir la possibilité d'avoir l'Esprit de Dieu qui éclaire ton cœur. Donc, ici, je crois vraiment que le texte doit être compris comme que la descendance de Cham, qui est ici sous l'exemple de Canaan, parce que Canaan est l'exemple de ses quatre fils qui ne marchent pas avec Dieu, là, bien, la descendance de Cham est maudite. OK? Puis elle est maudite pourquoi? Elle est maudite pour deux choses. Parce que elle n'habitera pas dans les tentes de Sem. Historiquement, les descendants de Cham n'ont pas eu le privilège d'être proches des descendants de Sem et donc d'être proches de la connaissance de l'Éternel. C'est ça le trésor, c'est de connaître le seul vrai Dieu. Ils n'ont pas été, historiquement, on va le voir, les peuples qui sont descendus de Cham, de Canaan, c'est pas des peuples où est-ce que la connaissance de l'Éternel s'est trouvée. C'est pas des peuples où ce que Israël a eu une influence sur eux parce qu'ils étaient loin d'Israël. C'est pas un peuple qui a eu non plus l'influence du christianisme. Ok, Christ est venu, Christ n'est pas né n'importe où, sa planète est née à une place. Ok, c'est que ça a pris du temps avec la connaissance de Christ, ça rentre à bien des endroits sa planète. Puis encore aujourd'hui, il y a bien des endroits où ce que la connaissance, elle n'est pas rendue là, de l'Évangile. Vous comprenez qu'il y a bien des endroits où il y a encore des tribus puis des indigènes qui vivent. Je ne sais pas où, en Polynésie ou en Amérique du Sud. C'est une malédiction que de ne pas avoir la connaissance de l'Éternel près de toi dans ta descendance. Et ça c'est la malédiction de Cham. Il n'a pas habité dans les tentes de Sem. Il n'a pas communié avec Sem. Et ça, je pense que c'est le plus gros de la malédiction parce que je trouve que ça va dans le contexte de Genèse. Le plus gros de la malédiction, c'est sûr. C'est d'être loin du trésor caché de la connaissance de l'Éternel. Maintenant, c'est pas juste ça que ça dit dans le texte. Ça dit qu'il a été l'esclave des esclaves. Et ça, c'est un petit peu difficile à comprendre, puisque la malédiction, c'est aussi ça. La malédiction, c'est pas juste que béni soit le Dieu de Sem, et que Japhet habite dans ses tentes, puis toi en tant que Canaan, en tant que Cham, tu n'as pas ce privilège-là. Mais ça dit dans le texte que tu es l'esclave des esclaves. Et là, j'en avais un peu parlé la semaine dernière. Il y en a qui ont interprété ça comme voulant dire que les descendants de Cham ou de Canaan, ça a été les esclaves tout le temps de leurs frères. Okay? Ça a été l'esclave des descendants de Sem et des descendants de Japhet. Historiquement, ça ne se tient pas, ça. Parce que là, on va le voir dans Genèse 10, il y a eu des peuples super forts, super puissants qui ont descendu de Cham, là, okay? Qui n'ont jamais vécu c'est quoi être l'esclave de d'autres personnes. C'est que c'est pas... Historiquement, ça ne se tient pas de dire que tous les descendants de Cham ont été des esclaves des autres. Okay? Ça ne se tient pas. Il y a eu des peuples descendants de Sem qui ont été esclaves de d'autres peuples. Puis Japhet aussi de ses descendants, il y en a qui ont été esclaves. Ça ne se tient pas. Puis même, comme je vous dis, c'est assez tendancieux pour quand il y a eu même cette idée-là à un moment donné que les peuples qui ont subi beaucoup d'esclavage dans les siècles passés, c'est près de nous. Là. On parle des Africains, c'est près de nous. On sait que les Africains, il y a eu l'esclavage, tout ça. On connaît l'histoire des États-Unis, tout ça, c'est près de nous. Puis on sait que les Africains descendent de Cham. Puis là, il y a eu cette interprétation de dire que c'était comme un petit peu ça, la malédiction. C'est ces peuples-là. Mais je veux dire, c'est un peuple parmi plein de peuples. Il y a eu plein de peuples africains qui ont été tout le contraire. Là. Je veux dire, les Égyptiens, ça n'a pas été des esclaves. Là. Les Égyptiens, puis le peuple éthiopien, là, il y a eu tout un empire éthiopien pendant des siècles, là, à une certaine époque. Là, il y a eu aussi là, même au Soudan à une époque. Là, aujourd'hui, nous, on pense à aujourd'hui, mais il y a eu toute une histoire qui s'est passée. Là. Et ça a été vraiment une interprétation qui était en faveur de dire, ben voilà la malédiction, ils sont esclaves, c'est un petit peu leur malédiction, puis on peut rien y faire. Ça a comme circulé comme idée, là, mais ça n'a rien à voir. Même historiquement, ça ne se tient pas. C'est une mauvaise interprétation du texte. Alors, ce que j'ai trouvé comme meilleure interprétation pour comprendre, ça veut dire quoi ça? Dans l'hébreu, être un esclave, ce n'est pas aussi dénigrant que qu'est-ce que nous, on le conçoit en français. Ça ne veut pas dire que tu es un esclave, tu es automatiquement en train de casser des pierres et te faire fouetter. Ce n'est pas automatiquement ça. Tu peux être un esclave tout en étant un serviteur, un intendant même. Pensez un petit peu à Joseph. Okay? Joseph qui a été amené en Égypte, vendu par ses frères. Il a été esclave en Égypte, mais il n'a pas toujours été un esclave là, avec un boulet au pied. Là. Comprenez qu'à un moment donné, il a eu toute une intendance et il en gérait des affaires. Là. Il était quand même esclave, parce que le jour où la femme de Potiphar n'était pas contente que le gars ne veuille pas coucher avec elle, ben, elle servirait de barre et il était en prison tout de suite. Comprenez, il n'était pas pharaon. Là. Il pouvait se faire mettre en prison, mais on s'entend que son esclavage, son service était plein de responsabilités. Il avait une grande intendance. Et il était un esclave. C'est que le concept d'esclave, il faut faire attention, c'est pas nécessairement dénigrant. Et je pense que dans ce cas-ci, il faut comprendre ça, parce que c'est pas vrai que la descendance de Cham au complet, elle a été dénigrée dans un esclavage vil et bas. Et c'est pour ça que j'ai voulu suggérer la semaine passée. Je pense qu'à quelque part ici, on parle plus de comment est-ce que la descendance de Cham, elle a été au service des deux autres descendances. Comment elle a été au service des deux autres descendances? Mais les deux autres descendances, c'est aussi des serviteurs. C'est pour ça que ça dit serviteurs des serviteurs. Parce qu'en fond, tous les humains, on est des serviteurs de Dieu. Puis si on retourne à Noé, si on retourne à Adam, c'est quoi un des services que Dieu a demandé aux êtres humains par rapport à sa création? Qu'est-ce qu'il leur a demandé de faire? Puis il a même demandé à Noé aussi, c'est quoi qu'il leur a demandé de faire, à part de se reproduire, là. Qu'est-ce qu'il a demandé de faire aussi? De la dominer. Quand on dit dominer, encore là, ça a de l'air négatif, mais il y a vraiment un aspect où d'être intendant, de bien gérer les ressources, de bien gérer la création, puis tu peux la gérer pour toi, dans le sens que tu peux, si les deux bœufs, tu en as besoin pour racler ton jardin, sans toi pas mal les utiliser, là, okay? Parce que Dieu t'a dit d'entretenir la terre. C'est pas injuste pour les deux bœufs de tirer tes affaires. Là. Tu peux t'en servir comme tu veux. Là. Ça serait pas correct de poigner deux bœufs et les tirer à coups de balle de fusil en tête pour le fun. Ça serait pas correct, là, mais on comprend que tu peux les utiliser. C'est que Dieu a donné clairement à Adam et Ève, puis a donné la même chose à Noé et ses fils, ce rôle-là d'intendance, okay? De gestion, de gérance. C'est pour ça que c'est pas mal aujourd'hui de travailler la terre, puis de faire de la métallurgie, puis de bâtir un gratte-ciel. C'est pas un péché, vous comprenez? On est en train d'utiliser notre intelligence que Dieu nous a donnée, puis on est en train de gérer les ressources pour les utiliser pour notre habitation, pour notre vêtement, etc. Où est-ce que c'est mal? C'est quand on gère mal, quand on pollue tout croche, quand on s'en garde 2 millions pour on donne rien à l'autre à côté. Tu sais, le péché fait en sorte qu'actuellement, les richesses sont super mal réparties sur la planète. Puis en plus, c'est pas la gestion de la planète, c'est pas la gestion saine qui gère les gens, c'est le profit. C'est ce que je veux dire. que dans 30 ans, le monde ne sera plus capable de respirer l'air, ça n'affecte pas trop la personne qui fait de l'argent actuellement, parce qu'on est pécheur. Puis soyons honnêtes, on ferait probablement la même chose si on est le même péché dans notre cœur. Okay? Par la grâce de Dieu, on n'est pas, tu sais, c'est facile de critiquer, on serait dans des situations, puis sans la grâce de Dieu, on ferait les mêmes affaires. Tu sais. J'aurais été élevé par un chèque arabe, puis j'hériterais d'une couple de milliards. Je pense pas que je serais tout d'un coup en train de pleurer sur le sort des Africains. Là. Tu sais, ça, vous comprenez, là, je serais dans la même situation là, de péché dans mon cœur. C'est le point, c'est que on gère mal les ressources. Ça, c'est ça le problème. On a le droit de les gérer. Puis c'est pour ça que la science, c'est pas mauvais de faire de la science, c'est pas mauvais de faire de la technologie, d'utiliser nos connaissances pour développer de quoi. C'est pas mauvais d'aller explorer la Lune, là, tu sais. Ce qui est mauvais, c'est de construire une tour de Babel, par exemple. Comprenez? Aller explorer la Lune pour mieux comprendre comment, whatever, ça, c'est une chose. Mais bâtir une tour de Babel pour s'élever au-dessus de Dieu puis se penser être en contrôle, ça, c'est un autre problème. Aujourd'hui, des tours de Babel, il y en a plein dans le monde. Je ne parle pas nécessairement juste des tours là, qui se construisent. Et cette attitude-là, où est-ce que tu essaies de contrôler ton monde toi-même comme si c'était ton monde à toi, tu sais. Là, il est rendu quelle heure, là, pour pas que je... Il reste... OK, bon, mes amis, OK. Bon, c'est correct, c'est un texte difficile, c'est que je vais terminer avec ça. Bon, c'est qu'à quelque part, les trois fils sont serviteurs de Dieu, ils doivent les trois faire l'intendance des ressources de Dieu. Puis historiquement, puis ça se défend, là. Historiquement, les descendants de Sem, comme je l'ai déjà mentionné, les descendants de Sem, ça a été particulièrement tous les peuples, les Juifs, les Arabes, tout ce qui est autour du Moyen-Orient, là ici, là, ça a été vraiment les descendants de Sem, se sont énormément établis ici, vous voyez, bon... L'arche, elle a stoppé quelque part ici, OK, pour ceux qui n'avaient pas de carte. Là. Puis on s'entend qu'après le déluge, la terre ne ressemblait pas à ça exactement. Okay? Il y avait encore eu, ça a branlé pas mal, ça s'est un petit peu écarté encore. Il y avait énormément de glace ici, énormément de glace là. Ça fait que, je veux dire, tu peux te promener d'un bord à l'autre pas mal plus facilement. Il y a eu vraiment une époque glaciaire après le déluge. Mais grosso modo, puis à mesure où il y avait moins d'eau aussi là, OK. Pourquoi il y avait moins d'eau dans les océans après le déluge? Parce que c'était pogné dans la glace en haut et en bas. C'est que littéralement, il y avait moins d'eau. Ça ne veut pas dire que les contours étaient comme ça en passant. Là. Les contours des continents, ben si tu as, je sais pas, moi, 20 pieds de moins d'eau, là, j'exagère, là, ben ce n'est pas la même contour que tu as. Si on avait pris une photo aérienne, ça n'aurait pas été la même affaire. C'est que les descendants de Sem, là, ils ont vraiment habité ce coin-ci. Les descendants de Japhet, eux autres, là, sont partis de là. Il y en a une gang qui est allée vers l'est ici, OK, qui a passé l'Iran. Ça, c'est l'Iran. OK, on en entend parler de temps en temps. C'est ici l'Iran. L'Irak est juste là en passant. Là. C'est qu'ils ont passé ici l'Iran. Ils ont même été plus loin. Ils ont passé ici ce qu'on a, de l'Afghanistan, le Pakistan. Puis ça, c'est l'Inde ici. Quand on dit les Indo-Européens, là, c'est vraiment les gens qui ont peuplé ce secteur-ci, qui est à l'est, jusqu'à l'Inde, puis qui ont peuplé l'Europe. L'Europe, c'est ça ici, OK? C'est que dans le fond, les Indo-Européens, là, c'est les Japhet, on va le voir dans le chapitre 10, ils se sont vraiment écartés vers l'est ici, puis ils ont éventuellement été vers l'ouest ici, puis ils ont peuplé l'Europe, OK? Puis on va le voir, là. Puis finalement, on a des descendants de Cham. Là, je dis ça pour expliquer finalement mon point du service. Cham, il y a vraiment une gang qui ont été vers le sud, qui ont peuplé ce qu'on connaît comme l'Égypte. Il y en a qui ont été un peu plus loin, ce qu'on connaît comme la Libye. Dans Genèse 10, on va voir, là, ils se sont rendus géographiquement là. Ils ont été vers le sud. Il y en a qui ont été carrément en Arabie, où est-ce que Sem s'installait, mais ils ont éventuellement traversé la mer Rouge, c'est la mer Rouge ici, pour aller s'établir en Éthiopie. Ça a devenu tout un empire ici, l'Éthiopie et le Soudan à côté. C'est que tu as toute une gang là, des Chamites qui ont fait ils ont traversé ici. Puis ça ici, c'est pas énorme à traverser, là, à cet endroit-là, la mer Rouge. C'est bien la mer Rouge, je ne suis pas en train de dire des niaiseries, c'est ça. Bon. C'est qu'ils se ramassent dans ce coin-ci, puis il y a toute une autre gang de Cham qui sont allés vraiment vers l'est, mais pas autant ici, dans le sud, qu'en passant par le nord. C'est qu'ils sont vraiment allés, puis ils ont tous colonisé, là, si on veut, se sont établis dans tout ce qui est les pays qui étaient anciennement des pays de la Russie, comme le Kazakhstan, etc. Éventuellement, les Russes descendent aussi des Chamites. Là. Il y a vraiment la Russie, c'est ça ici. C'est qu'ils sont vraiment allés vers l'est ici. C'est qu'en allant vers l'est, ils ont vraiment. Se sont établis dans ce qui est la Russie actuelle, éventuellement la Mongolie, la Chine, le Japon, tout ça ici. OK? C'est quand on dit en anglais, on dit les mongoloïdes, là, ça a l'air bizarre comme mot, mais c'est vraiment tous les. Ceux qui sont d'origine mongole, excusez-moi, là, c'est vraiment un terme là, pour détruire. Hein? On va dire le mot asiatique, ça passe mieux, excusez-moi. Asiatique, ici, c'est que vraiment Cham est à l'origine de tout ce qui est asiatique, mais ça, on a perdu historiquement, là, même dans les Écritures, on ne sait pas trop ce qui s'est passé de ce bord-là. Là. Qui sont les personnages célèbres dans les Écritures qui sont arrivés de ces coins-là? Oui, mais là, on est rendu encore plus à l'est. Moi, là, je suis rendu vraiment dans les civilisations chinoises, en plus en Extrême-Orient. Là. Rappelez-vous, à la naissance de Jésus, moi, je trouve que c'est un beau clin d'œil. Là. C'est les mages. Les mages, c'est un beau clin d'œil à Dieu s'est révélé d'une façon qu'on ne sait même pas comment, où est-ce qu'il y a des gens de l'Extrême-Orient qui sont venus à savoir que Christ était né, puis sont partis. Les trois mages, c'est vraiment des gens qui venaient vraiment de l'Orient. Mais là, imaginez-vous ce gang-là. Les Chamites, là, ce sont vraiment, les Chamites, les descendants de Cham, se sont vraiment isolés du reste, parce que les autres sont allés vraiment vers l'Est. Mais il y en a une gang, là, sont arrivés là. Il y en a qui ont été vers le Sud, qui ont probablement, à cause qu'il y avait moins d'eau, ils ont réussi à prendre les détroits de Malaisie. Ici, là, on est rendu en Malaisie, Indonésie, OK? Ils se sont rendus jusque-là, puis après ça, de là, tu pognes une coupe de radeau, tu te fais des pirogues, là, puis t'es rendu en Australie, puis t'es rendu à tout ce qui est Polynésie. Là. La Polynésie, c'est les 200 000 îles qu'il y a dans l'océan Pacifique, c'est ici. Ça fait que tout ce qui est les aborigènes d'Australie, les Polynésiens, les Indonésiens, les Malaisiens, après ça, tout ce qui est... Puis vous en remarquerez que physiquement, il y a des ressemblances, là, clairement asiatiques avec tous ces peuples-là, même quand vous allez dans les aborigènes en Australie. Puis éventuellement, il y en a qui ont continué à rouler, puis ils ont roulé jusqu'à temps qu'ils ont pogné le détroit de Bering ici, qui était passable à ce moment-là pour traverser dans les Amériques. C'est que là, on est rendu ici. Là, imaginez-vous, les autres en ont marché un bout, puis les autres, ils ont passé dans du fret aussi, OK? C'est qu'ils sont arrivés ici, il y en a une couple qui ont décidé de s'établir dans le nord, il y en a qui se sont ajustés à vivre en Arctique, là, qu'on a les Inuits d'aujourd'hui. Vous regarderez encore les Amérindiens, les traits Amérindiens, il y a des similitudes avec les traits asiatiques, OK? C'est qu'ils sont descendus, il y a du monde qui sont arrivés du nord, ils ont descendu, ils se sont établis à mesure, là, tous les peuples amérindiens qu'on connaît, les peuples Navajo aux États-Unis, il y a plein d'Amérindiens aux États-Unis. On s'entend, c'est eux autres qui étaient là bien avant là, que l'histoire moderne occidentale, là, je veux dire... C'était eux qui habitaient les Amériques. Là. C'était pas les Européens qui ont déménagé là, là. Je veux dire, pendant des milliers d'années, c'était eux autres qui étaient là. Mais eux autres, pendant qu'ils étaient là, puis qu'il y avait de l'histoire qui se passerait ici en Israël, là, il n'y avait aucune. Tu sais, ils ne savaient pas ce qui se passait. Donc, ils s'étaient développé leur propre Dieu, leur propre Manitou, leur propre totem, puis ils vivaient ici. Là, la connaissance de l'Éternel, là, il y avait peut-être dans leur fable certaines réminiscences d'un déluge lointain, là, mais c'était pas mal ça qu'il y avait, OK? Il y avait l'idée d'un Dieu quand même. Tu sais, il adorait quelque chose, quelqu'un. Puis ces peuples-là ont descendu, ça a fait les grandes civilisations Inca et Maya ici. Là. Ça vient toute la même gang là, qui sont partis là, puis ils ont fait le tour. Là. C'est une méchante marche, hein. Tu fais pas ça en 30 ans. Là, tu fais ça, c'est des générations qui passent. Là, t'as tes enfants qui vont un peu plus loin, ils s'établissent, ils font d'autres enfants, ils vont un peu plus loin, ils s'établissent, ça prend du temps. Puis c'est juste que dans le sud, parce qu'on a toutes les civilisations encore sud-américaines là, qui, à quelque part, ont des traits, au niveau de la génétique, il y a des liens. Même les ethnologues, puis les anthropologues, puis les archéologues, tout ce beau monde-là, qui font essayer de retrouver de où qu'on a évolué la première place, là, tu sais. Ils vont faire un peu des schémas similaires, où est-ce qu'ils, supposément, c'est dans ce coin-ci que la première ancêtre, là, a réussi, je sais pas trop, à gratouiller deux pierres, faire du feu, puis à un moment donné, c'est mis à, tu sais, bon, l'ancêtre des, où est-ce que les langues ont commencé. D'ailleurs, l'étude des langues, c'est une belle façon de savoir comment que les peuples se sont dispersés aussi, quand on étudie les langues. Mais tout a parti de là. Mais ça, le récit biblique est d'accord avec ça. Là, je vous laisse avec ça, OK? 15 secondes, là. Vous comprenez ici là, que vous avez des peuples qui ont été éloignés de d'autres peuples. Puis, je vais y revenir la semaine prochaine, mais retenez juste ça, trois choses. Les descendants de Sem ont été particulièrement marqués par un... C'est par eux, entre autres à travers Israël, que la connaissance de l'Éternel a été gardée. Puis ça a été des peuples très monothéistes qui ont gardé... ils adoraient un seul Dieu, puis bon, très religieux, beaucoup d'aspects spirituels. Les peuples japhétiques, les descendants de Japhet, ces autres éventuellement qui sont les ancêtres de tout ce qui est grec, européen, indo-européen. Tout le développement de la philosophie, de la science, on la doit beaucoup aux descendants de Japhet. Okay? Puis ça va bien dans la prophétie ici. Quand ça dit qu'ils ont été élargis, là, il y a tout un aspect, là, on y reviendra, qui ont été élargis dans le sens « easily persuaded in their minds okay? ». C'est des gens qui ont ouvert l'esprit probablement. C'est des grosses généralisations que je fais, là, mais la prophétie se fait référence à ça. Puis finalement, là, la plupart des développements technologiques, la plupart des découvertes, la plupart des premières explorations, c'est des descendants de Cham qu'ils ont fait. Je viens de vous dire, c'est pas mal les autres qui ont pas mal découvert la planète au complet, OK? Puis en plus, historiquement, on est capable de montrer que c'est la plupart de ces descendants-là qui ont développé les plus grandes réalisations. Ça veut pas dire que ça a été les seuls, mais ça a été la plupart des grandes réalisations. Ça a commencé sous Cham, de la même façon que c'est sous Caïn que les grandes réalisations se sont faites. Puis souvent, Sem et Japhet, leurs descendants, ont repris ces avancées-là technologiques, puis ils ont amené un point plus loin. Ce qui fait en sorte que c'est comme si Cham, dans tout son développement technologique, Il s'est ramassé être au service de ses frères, dans le sens que ses frères, dans leur service aussi, ont fort utilisé son exploration et ses avancées technologiques pour eux-mêmes faire leur service d'intendance envers Dieu, qui était par rapport à garder la connaissance de l'Éternel, philosopher, faire de la science, vous comprenez? C'est à quelque part l'interprétation, à mon avis, qui répond le mieux à ce texte-là, puis on reviendra la semaine prochaine, c'est vraiment cette idée-là, que Sem a été le serviteur des serviteurs dans ce sens-là. Je vais y revenir, puis j'ai beaucoup d'exemples à vous donner, là. Hein? Je suis pas là la semaine prochaine, ma femme me rappelle. Je prends ma retraite la semaine prochaine, donc c'est dans 2 semaines le prochain cours.